exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
C'est la seconde partie d'appel sur l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le moment de notre débat ce matin sur le contrôle des réseaux sociaux. En période de tension, d'élection, certains pays ont le réflexe de couper net tous les réseaux sociaux comme s'ils étaient l'une des origines du problème. Les sanctions contre les utilisateurs sont aussi de plus en plus courantes, comme au Burundi où 8 personnes sont détenues depuis plusieurs jours pour des propos jugés diffamants alors qu'ils étaient échangés sur un groupe de discussion virtuelle. Pourquoi les réseaux sociaux font-ils si peur dans certains pays? Peuvent-ils être considérés comme une source de débordement? Dites-nous aussi quelle utilisation vous en faites et ce qu'ils vous apportent. Pour le faire, évidemment, il y a les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi l'ancestral numéro de téléphone. C'est le 33 9 693 693 70. Vous êtes quelques-uns à nous expliquer ce que représentent les réseaux sociaux pour vous, sur Facebook notamment. Victor nous dit: ils constituent une menace pour les autorités car ils permettent d'informer un nombre important de personnes, souvent sur la gestion calamiteuse de la cité, et de prendre des mesures parfois de soulèvement populaire. Oumar nous dit: les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui une voie pour les sans-voix, c'est pourquoi ils constituent un danger non négligeable. Ou encore Évangéliste qui dit: tout en reconnaissant la place qu'occupent les réseaux sociaux de nos jours, ils sont pour la plupart du temps sujets de propagande mensongère et de polémique. Il est donc urgent qu'il y ait un contrôle strict pour ne pas voir nos jeunes démocraties africaines se fourvoyer. On va poser tout de suite la question à Christian qui nous appelle de Paris sur l'utilisation des réseaux sociaux. Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous êtes burundais, vous êtes installé donc à Paris. Comment réagissez-vous déjà à l'arrestation de ces personnes au Burundi, à Bujumbura, accusées d'avoir eu des propos diffamants, injurieux lors d'une conversation sur WhatsApp?
Écoutez, déjà je m'indigne parce que ça c'est une arrestation arbitraire hein, par rapport à ce qu'on accuse aux 8 habitants de Bujumbura qui ont été arrêtés. Aujourd'hui tout le monde a le droit d'avoir un téléphone, de suivre les informations, quoi qu'il en soit, même si on est dans un état en guerre, les gens ils ont le besoin aussi de rester en communication avec leur famille. Donc moi je condamne fermement, donc c'est une continuité pour le gouvernement burundais de les façons de réprimer la population.
Alors c'est ce que dit aussi l'Observatoire de la presse burundaise, hein, que c'est un support, les réseaux sociaux sont un support pour diffuser des bulletins d'information. Je cite: ce ne sont pas les rumeurs qui courent auxquelles les autorités veulent mettre fin, mais à l'un des derniers moyens de faire circuler l'info. Alors que le porte-parole du ministre de la Sécurité publique, lui, dit que c'est des actes de cybercriminalité, des personnes qui s'apprêtaient à diffuser de nouveaux propos diffamatoires et injurieux. Il faut peut-être rappeler aussi l'importance, Christian, des réseaux sociaux au Burundi, surtout depuis le début de la crise, il y a un peu plus d'un an.
Mais tout le monde a suivi, le monde entier a suivi comment ils ont fait taire les médias locaux. Ils ont brûlé les médias, on n'a plus d'autres sources d'informations. Aujourd'hui, les 16 informations que nous, les Burundais de l'extérieur et de l'intérieur, que nous disposons, c'est via ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que les informations instantanées, ils prennent des photos, ils envoient, ils disent comment ça se passe et tout le monde partage, tout le monde sait ce qui se passe. Mais le gouvernement ne voit pas ça de bon œil.
En fait, les médias sociaux prennent le relais de médias qui ont disparu.
Et tout à fait, tout à fait. C'est comment on aurait su des exactions extrajudiciaires, ces cadavres-là qu'on ramasse tous les jours, qu'on a montré au monde entier, c'est eux qui ont joué ce rôle, ces jeunes Burundais qui partagent ces informations.
Des réseaux sociaux qui ne servent pas non plus qu'à des opposants ou des gens qui veulent dénoncer des actes. C'est des moyens de communication qui sont...
Pourquoi attribuer ça à l'opposition? C'est une population en détresse qui essaie de montrer au monde entier ce qui se passe. Il ne faut pas fermer les yeux. Éveillez-vous, voilà ce qui se passe dans le pays. Réellement, ce n'est pas ce que vous voyez sur la télévision nationale du Burundi.
Ce que je voulais vous dire, Christian, c'était que ce sont des moyens de communication qui sont aussi utilisés de façon officielle, par exemple, par le gouvernement burundais.
Et voilà, c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment aujourd'hui, on peut réprimer des gens parce qu'ils utilisent WhatsApp et qu'on voit que le gouvernement burundais est à la top et au niveau très élevé de communication via les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le porte-parole du président, le chargé de communication, qui crée des groupes, des réseaux de communication très très développés, qui contrait même des vraies informations en propageant des faux rumeurs. Et il faut arrêter. C'est le mode de communication aujourd'hui qui est à la mode. Et c'est ce qui reste de toute façon. Ils savent que tout le monde regarde leurs tweets. Ils savent comment nous faire transmettre les messages, mais ils ne veulent pas que nous, on reçoive les messages de la population.
La preuve, en tout cas, que les réseaux sociaux au Burundi, c'est vraiment le premier moyen de communication, surtout depuis le début de la crise. Merci d'avoir été avec nous à l'antenne de RFI dans Appel sur l'actualité. On va maintenant accueillir Francis qui nous appelle de Bujumbura. Bonjour Francis.
Bonjour Marie.
Donc on l'a compris, c'est délicat hein, de se servir des réseaux sociaux au Burundi. Quelle utilisation vous en faites ?
Bon, en principe, moi je voudrais peut-être faire la différence. WhatsApp n'est pas un réseau social par excellence, c'est un réseau de messagerie. Parce que ce qui circule sur WhatsApp n'est pas publié par la personne en vue de le faire voir à tout un public. C'est différent de WhatsApp, de Facebook ou de Twitter où le responsable publie pour un grand nombre de personnes, il est responsable de la chose. Pourtant, avec WhatsApp, on retrouve que dans nos téléphones, il y a des choses qui ne viennent pas de nous et des fois, des gens vous envoient des messages dont vous n'êtes pas responsable. Donc, c'est difficile de punir quelqu'un parce que vous voyez dans son téléphone des trucs. Peut-être qu'il a reçu de quelqu'un qui ne connaît pas. Et à ce niveau où je dis, il faudrait que les gens qui accusent les autres essaient de limiter la capacité de nuisance par rapport à ce moyen qui est utilisé par les pro-gouvernements et les opposants. Tout le monde utilise. Il y a plein de groupes dans ce pays qui utilisent WhatsApp.
Vous confirmez, oui, Francis, que c'est vraiment le premier moyen de communication au Burundi et notamment aussi pour des bulletins d'information.
Bon, pas nécessairement le premier, mais je dis à l'absence d'une information fiable, à l'absence d'une confiance de l'information, tout le monde essaie de relayer des messages qui tombent d'ici et de là. Et on n'est pas nécessairement responsable. Donc c'est à ce niveau où je me dis, ceux qui ont l'autorité de pouvoir réprimander les crimes, qu'ils le fassent avec moins de rigueur, parce que ce serait vraiment injuste pour certaines personnes qui, des fois, dans leur téléphone, il y a des choses qu'ils n'ont même pas regardées, ne savent même pas d'où ils sont venus.
Oui. Puis on rappelle juste que ce sont des conversations au sein d'un groupe. Il ne s'agit pas non plus de les publier sur des comptes Facebook ou Twitter, des messages qui pourraient être vus, alors pour le coup, par un beaucoup plus grand nombre de personnes. Merci Francis d'avoir témoigné depuis Bujumbura au Burundi. On va maintenant aller au Mali, à Bamako, où Adama nous attend. Bonjour Adama.
Bonjour Marie, bonjour.
Alors vous Adama, à Bamako, vous avez connu la coupure et la perturbation de certains réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber. C'était juste après la manifestation du 15 août contre l'arrestation du blogueur Razbat, une manifestation qui avait dégénéré il y a au moins un mort. Comment avez-vous compris cette coupure des réseaux sociaux ?
Moi, j'ai compris cette coupure comme d'abord un recul de la démocratie au Mali. Parce que dans les pays où il y a ce genre de coupure, en fait, c'est des pays où il y a la mauvaise gouvernance, en fait. Parce que le gouvernement, l'État pense, en fait, qu'en coupant les réseaux sociaux, c'est une manière aussi, en fait, de bannir l'expression, la liberté d'expression des populations, des citoyens par rapport à ce qu'ils vivent. Et généralement, les réactions des populations sur les réseaux sociaux, ça aborde beaucoup plus vraiment la manière dont la gouvernance, en tout cas, et la population la sent un peu.
La justification, Adama, c'est que Razbat lui-même avait annoncé, en tout cas ses proches avaient annoncé son arrestation, et c'est lui qui a appelé à une manifestation de soutien. Du coup, les autorités se sont dit on va stopper les réseaux sociaux pour éviter de nouveaux appels à la manifestation. Est-ce que vous entendez cet argument-là ou pas ?
Non, moi je n'entends pas cet argument parce qu'en réalité, à quoi ça a servi en fait ? Ça n'a pas servi parce que si on pense que Razbat a utilisé les réseaux sociaux pour en tout cas appeler à manifester et que la conséquence de ça, il fallait couper, mais moi je pense que le résultat, c'est que les gens voulaient, c'était aussi la libération du monsieur. Parce que quoi qu'il en soit, il s'agit en réalité derrière tout ça, c'est d'arriver à contrôler la liberté d'expression des citoyens par rapport à la gouvernance. Les pays africains vivent
en... C'est vrai qu'à travers l'arrestation de Razbat, beaucoup se sont exprimés sur une atteinte à la liberté d'expression, qui a peut-être des arguments qui ont sûrement été nourris par la coupure des réseaux sociaux. Merci Adama, on va rester à Bamako avec Jean. Bonjour Jean.
Bonjour Marie, vous allez bien ?
Oui, très bien. Merci Jean. Est-ce que vous êtes d'accord avec Adama? Est-ce que vraiment c'est une censure, le fait d'avoir coupé les réseaux sociaux la semaine dernière à Bamako après cette manifestation?
Je suis pas du tout d'accord avec Adama. D'abord, moi, je voulais signaler que les réseaux sociaux sont certes des moyens très faciles, très pratiques de communiquer, de s'informer. Mais en même temps, nous devons faire beaucoup attention à ces réseaux. Car certaines informations qu'on y trouve ne sont pas fondées. Ça, c'est un premier aspect. Et ensuite, il y a beaucoup de manipulations, de propagande là-dessus. Donc ça, c'est clair, c'est inévitable et nous devons beaucoup faire attention à ces réseaux sociaux. Ensuite, en ce qui concerne la censure, la suspension, l'interdiction de ces réseaux, en ce qui concerne le cas du Mali et le cas des manifestations, après les manifestations qui ont suivi l'arrestation du blogueur, moi je pense qu'aujourd'hui je comprends l'attitude, la décision du gouvernement, je pense que c'est tout à fait sage. Quand il s'agit de sauvegarder l'unité, la paix, la sécurité dans le pays, et moi je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait une interruption de ces réseaux pendant un moment bien précis, pour sauvegarder, vous savez, le Mali sort d'une crise. Le pays n'est pas encore totalement rétabli par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de problèmes qu'on vit ici au Mali. C'est vrai, je ne dis pas qu'il y a une bonne gouvernance, que les autorités sont parfaites, que tout se passe bien. Non, je ne le dis pas.
Mais est-ce que vous avez l'impression, en l'occurrence, Jean, que le fait d'avoir coupé les réseaux sociaux pendant quelques jours a pu faire redescendre un peu la tension autour de cette affaire Rasbat? Est-ce que vraiment ça a eu un intérêt?
Oui, ça y a un intérêt, Marie, parce que vous savez, lors des manifestations qui ont suivi l'arrestation du blogueur, il y a eu des morts, beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et s'il n'y avait pas eu cette censure, c'est-à-dire les images, les informations qui auraient été véhiculées après cette manifestation, pouvaient encore soulever d'autres manifestations, d'autres incidents, d'autres morts, on suppose.
Pour certains, la coupure des réseaux sociaux juste après la manifestation, c'était justement pour cacher ces images dont vous parlez, notamment de Douille, cacher une certaine vérité aussi de ce qui s'est passé pendant la manifestation. Il y a plusieurs façons d'interpréter la coupure de ces réseaux.
Oui, je vais bien sûr ce que j'ai dit. Quand il s'agit de sauvegarder l'unité, la paix, la sécurité, moi je pense que tous les moyens sont bons. Je prends l'exemple sur la France après les attentats de Paris, etc.
On va y venir justement avec un auditeur qui nous appelle de France, Jean, mais on comprend en tout cas que pour vous la recherche de la paix, le maintien de la paix, ça doit aussi passer parfois par des restrictions personnelles et notamment en termes de liberté d'expression. Vous parliez de la France, eh bien on y va avec Mauriac. Bonjour Mauriac.
Oui, bonjour Madame Marie, comment allez-vous?
Ça va très bien, d'où est-ce que vous nous appelez Mauriac?
Oui, je vous appelle de Massy, la région parisienne.
Qu'est-ce que vous vouliez nous dire donc à propos des réseaux sociaux?
Oui, à propos des réseaux sociaux, ma position est, je pense, simple. Aujourd'hui, il y a des coupures qui sont dues à des réseaux autres. Et moi, je pense que pour un État, pour la gouvernance d'un État, le contrôle des réseaux, c'est quelque chose de primordial. Parce que ça peut déstabiliser un État. Aujourd'hui, on le voit, on le vit en France. Si les réseaux sociaux avaient été contrôlés dès le début des problèmes liés au terrorisme, il y aurait beaucoup de choses qui auraient dû être évitées. Aujourd'hui, ils ont dit, bon, on peut laisser les réseaux sociaux discuter comme ils veulent, dire ce qu'ils veulent.
Non. Les réseaux sociaux, pour vous, c'est un moyen pour les...
Ah ben bien sûr, ça peut
propager la propagande, hein, et en l'occurrence terroriste.
Ça veut dire que la bonne propagande ou la mauvaise propagande? Ça veut dire que pour un État, il est important. Peut-être pas après des coupures qu'on vit au Mali, bon, peut-être c'est les réseaux autres. Mais pour un État, je pense que c'est primordial de surveiller ce qui se passe dans les réseaux sociaux, de les contrôler en fait. La surveillance peut être confondue avec le contrôle, mais vraiment de surveiller.
Alors comment on fait, Mauriac, pour contrôler? Comment on fait pour contrôler des moyens de communication qui sont utilisés par, pour le coup, plusieurs milliards de personnes?
Ben aujourd'hui, il y a des polices en France, il y a la police d'Internet qui sont dans les réseaux en France. Il y a des polices aux États-Unis, il y a des gens qui sont sur Internet, ils disent, regarde, si chez vous allez, par exemple, pour ceux qui habitent dans les pays développés, dites développés, ils le savent. Si vous allez dans des sites de pédophilie ou je sais pas de quoi, des réseaux sociaux, machin, la police viendra chez vous. C'est vrai dans les règles, parce que c'est contrôlé. Maintenant, dans des pays africains, c'est des méthodes qui sont un peu, on va dire, dérisoires, on va dire.
Voilà. Alors, il faut rappeler juste, Mauriac, que sur les réseaux sociaux, en fait, on ne peut que supprimer des contenus déjà publiés en les signalant, en fait, par exemple, sur Facebook. La politique, c'est de compter sur la communauté pour dénoncer des propos injurieux, des appels à la haine, des propos racistes. Et Twitter, qui est souvent accusé de ne pas être très réactif, dit quand même avoir suspendu 235 000 comptes ces 6 derniers mois en France, avec des pics juste après les attentats. Il y a quand même beaucoup de profils Facebook, Twitter, de djihadistes qui ont été supprimés. Pour vous, ce n'est pas assez.
Vous comprenez, Madame Cazadebé, parce que derrière, il y a des services de l'État qui contrôlent, qui surveillent ces réseaux. Et Twitter ne sait pas. Moi, par exemple, je ne sais pas que M. Antoine est un terroriste. Parce qu'il y a des services de l'État qui surveillent, qui sont là en train de surveiller les réseaux. Mmh. Et au besoin, ils coupent parce qu'ils ont la technologie. Ils demandent à Twitter de couper. Ils ont la technologie. C'est peut-être pas ce que les pays africains, ils ont, je veux dire. Peut-être qu'ils sont à dire à Twitter, couper tel site, lever tel site.
On a effectivement, peut-être en France, plus de moyens, pour supprimer certains comptes plutôt qu'être obligé de couper tous les réseaux sociaux. Mais la France se pose aussi des questions pour légiférer. Elle voudrait, par exemple, adapter la loi sur la presse et la liberté d'expression aux réseaux sociaux, pour qu'on ne puisse pas diffamer, insulter, en toute impunité sur les réseaux sociaux. On va retourner en Afrique où Brahim nous attend à N'Djamena. Bonjour Brahim.
Bonjour Marie et bonjour les visiteurs et les auditrices de RFI de par le monde.
Alors dans votre pays, Brahim, au Tchad, hein, ça fait maintenant plusieurs mois que les réseaux sociaux ne sont pas accessibles directement depuis une affaire de justice, mais aussi depuis la présidentielle. Comment vous interprétez cela au Tchad ?
Vous avez raison. Depuis presque le mois de mai, je pense que pratiquement on n'arrive pas à accéder directement sur ces réseaux. Moi, je pense que c'est vrai, c'est une censure. On ne peut pas l'appeler autrement, c'est une censure, mais c'est une censure partielle et positive. Pourquoi partielle ? Parce qu'on peut accéder par d'autres moyens, par d'autres logiciels. Et quand je dis positif, c'est que nous vivons vraiment une tension sociopolitique au Tchad. Nous avons des acharnements contre des ethnies, contre des régions, des religions. Et donc, je pense que le gouvernement a jugé utile pour le moment, pour l'instant, de faire couper ces réseaux de manière directe. Les gens peuvent indirectement par d'autres canaux peut-être contourner, mais ça coûte plus cher. Donc, quitte à préserver l'unité nationale, la solidarité, la paix.
Alors, vraiment, au Tchad, il y a eu donc une coupure aussi au cours de la présidentielle d'avril, de la réélection d'Idriss Déby. Comment vous l'interprétez ? Parce que là, vous parlez de messages de haine qui sont diffusés sur les réseaux. C'est un lien avec cette présidentielle ou pas du tout ?
Certainement, il y a aussi un lien avec ces présidentielles. Mais il faut noter que depuis février 2000, début de l'année, nous avons l'affaire Zuhra. L'affaire Zuhra a fait pas mal de rage.
Alors, c'est donc une jeune femme qui a été violée. Il y a eu une grosse mobilisation sur les réseaux sociaux pour que ces violeurs soient arrêtés. Et depuis, vous dites, qu'est-ce qui se passe en fait sur les réseaux sociaux ? Des messages de haine liés à cette affaire ?
Nous avons des vidéos, des gens qui discutent, se chamaillent par l'intermédiaire des vidéos. Imaginez-vous qu'on attaque, qu'on s'acharne sur l'ethnie de ces accusés. On ne peut pas accuser, on ne peut pas généraliser les choses. C'est pas parce que 5 ou 6 individus d'une ethnie font une gaffe qu'on généralise. Donc je pense que nous, en tant que Tchadiens, nous ne sommes pas encore mûrs pour pouvoir utiliser d'une manière rationnelle ces genres de réseaux.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la solution est un peu radicale ? Couper les réseaux sociaux pour certains messages haineux diffusés sur Facebook ou Twitter ?
Nous n'avons pas d'autre contrôle, nous n'avons pas contre-mesure, comme l'a dit le précédent auditeur. Nous sommes dans un pays sous-développé où les technologies de l'information et de communication ne sont pas encore accessibles ou bien ne sont pas encore au top. Donc, le seul moyen qu'on a, c'est la coupure, c'est la censure.
Ouais.
Donc,
faute de moyens, vous pensez que ces réseaux doivent être coupés plutôt que d'être le biais de messages haineux ?
Voilà.
Tant qu'ils ne sont pas contrôlés.
Voilà, c'est sûr, dès que les tensions baisseront d'un cran, le gouvernement va remettre tout à sa place.
Merci Brahim. On voulait joindre Clément aussi à N'Djamena qui nous disait quand même que beaucoup de Tchadiens ont accès à Internet par des moyens détournés, des logiciels notamment qui permettent de se connecter via l'étranger. Et que du coup finalement, malgré tout au Tchad, eh bien, on se connecte à Internet et à Facebook notamment pour regarder la page d'appel sur l'actualité. On se retrouve demain pour la Libre Antenne puisque ce sera vendredi.